bienvenue à vous qui venez de vous joindre à nous à l'instant. Vous êtes sur Radio Orient, il est midi avec vous pour ce tour d'horizon de l'actualité. Nadia Bencher, Loïc Barrière et François-Xavier de Calonne. Voici les principaux titres. Des milliers de Palestiniens fuient la bande de Gaza suite après l'ultimatum du ministre israélien de la Défense sur le terrain. L'armée poursuit ses attaques. Bilan de ces dernières 24 heures, près de 90 Palestiniens tués selon l'agence Wafa. Le dossier du jour est consacré à la flottille humanitaire pour Gaza, Global Sumud, interceptée par Israël, partie d'Espagne avec ses 45 bateaux. Elle avait pour objectif de briser le blocus imposé à l'enclave palestinienne. Nous irons ensuite au Maroc où la contestation sociale prend une tournure dramatique. Depuis samedi, les manifestations se multiplient et ont déjà fait 2 morts abattus par la gendarmerie alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut une brigade. Bonjour à tous. On commence par le Proche-Orient. Des milliers de Palestiniens fuient Gazaville après un ultimatum israélien d'évacuer la zone. En attendant, les opérations de l'armée se poursuivent. Selon l'agence palestinienne Wafa, 85 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans de nouveaux bombardements, dont 53 à Gazaville. La Croix-Rouge suspend ses activités à Gazaville face à l'intensification des frappes israéliennes. L'organisation avertit que des dizaines de milliers d'habitants restés sur place vivent désormais dans des conditions humanitaires qualifiées d'effroyables. En Turquie, la justice enquête après l'interception par Israël de la flottille humanitaire pour Gaza. 24 citoyens turcs ont été arrêtés en mer par la marine israélienne. Ankara dénonce un acte de terrorisme et parle de violation du droit international. Au Liban, 2 ingénieurs ont été tués ce matin dans une frappe israélienne qui a visé le sud du pays, selon l'agence officielle libanaise. Israël poursuit ses opérations malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. L'ONU recense déjà plus de 100 civils tués par ces raids en moins d'un an. Au Maroc, 2 personnes ont été tuées mercredi soir par des gendarmes alors qu'elles tentaient de prendre d'assaut une brigade. Il s'agit de l'incident le plus grave depuis le début des protestations impulsées samedi par un collectif de jeunes baptisé Gen Z 212. Au Soudan, au moins 6 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux paramilitaires au Darfour Nord. La ville d'El Fasher, assiégée depuis plus de 17 mois, est devenue l'épicentre du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide. Selon l'ONU, la situation humanitaire y est dramatique. Près de 40% des enfants souffrent de malnutrition aiguë. Et puis enfin en France, nouvelle journée de grève et de manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Quelques jours de l'annonce du budget, près de 250 cortèges sont prévus dans le pays, mais la mobilisation s'annonce plus faible que le 18 septembre. À Paris, 5000 policiers sont déployés, les transports fonctionnent presque normalement. Quelques perturbations dans les TER et intercités. Les syndicats réclament des mesures de justice sociale et attendent le discours du Premier ministre la semaine prochaine. C'est ainsi que s'achève ce tour, ce point de l'actualité. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Écoutez Radio Orient, place à présent au dossier du jour avec d'abord l'interception par Israël de plusieurs bateaux faisant partie de la flottille humanitaire pour Gaza, une flottille qui est partie d'Espagne début septembre. Loïc Barrière.
Oui, Nadia, la Global Sumud Flotilla se veut une mission pacifique et non violente. Elle comptait au départ environ 45 bateaux avec des centaines de militants pro-palestiniens originaires de plus de 40 pays. Objectif, briser le blocus de Gaza et fournir une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide. La flottille faisait route en mer Méditerranée au large de l'Égypte et s'approchait des côtes de la bande de Gaza quand plusieurs de ces navires ont été interceptés par la marine israélienne. Les passagers ont été conduits en Israël et doivent être expulsés. Les organisateurs ont dénoncé une interception illégale dans les eaux internationales.
Et parmi les centaines de militants qui participent à cette flottille, on compte plusieurs personnalités.
Et oui, les organisateurs ont invité des figures médiatiques à participer à cette mission pour attirer un maximum d'attention sur la situation à Gaza. Parmi les passagers, on peut citer le petit-fils de Nelson Mandela, mais aussi des parlementaires européens comme la franco-palestinienne Rima Hassan, ou encore la militante suédoise Greta Thunberg et l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, des personnalités qui ont posté de nombreuses vidéos de leur voyage humanitaire sur les réseaux sociaux.
Alors l'interception des bateaux de cette flottille a suscité un certain nombre de réactions, Loïc Barrière.
D'abord la réaction du Hamas, l'interception par les forces israéliennes de ces bateaux est un crime de piraterie et de terrorisme maritime contre des civils. La Turquie, elle, accuse Israël de commettre un acte de terrorisme. Elle a ouvert une enquête. L'Espagne va convoquer la chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël. En France, le chef de la diplomatie démissionnaire, Jean-Noël Barrot, appelle, lui, les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants. À noter que LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon, a appelé à des rassemblements de protestations partout en France.
Merci Loïc Barrière pour ces précisions. Passons à présent au plan diplomatique. Le plan dit de paix de Donald Trump à Gaza verra-t-il le jour? Pour le moment, le Hamas ne s'est pas prononcé après le feu vert d'Israël. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, revient sur la gouvernance provisoire par des personnalités non palestiniennes à l'image de Tony Blair.
Oui, c'est effectivement, l'angle mort du plan Trump. Ça tient au fait que une des lignes rouges de Netanyahou, c'était qu'il n'y ait pas l'autorité palestinienne comme interlocuteur, comme acteur, dans le plan. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'une autorité transitoire avec un comité palestinien technocratique et apolitique, ce qui n'exclut pas d'ailleurs, certains de ses membres de ne pas forcément être très éloignés de l'autorité palestinienne. Mais en tout cas, en termes d'affichage, effectivement, c'était une exclusion de facto de l'autorité palestinienne, jugée à tort ou à raison, mais partiellement à raison d'ailleurs, par le Premier ministre Netanyahou, mais par intérêt bien compris de sa part, comme délégitimé du fait de son incurie et de sa corruption. Et c'est un grief qui effectivement est formulé non sans raison aussi, puisqu'il y aurait l'idée d'une autorité internationale de transition qui chapeauterait en fait l'ensemble, et c'est là où on retrouve, alors avec un comité pour la paix présidé solennellement par le président Donald Trump, mais assisté de Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, qui effectivement a fait valoir son expérience dans la région, puisqu'il a été membre du Quartet il y a une quinzaine d'années. Il est à la tête d'une fondation qui travaille activement sur la dialectique de négociations au Moyen-Orient et la lutte contre l'extrémisme, mais c'est un personnage qui est jugé ambivalent par ses détracteurs, d'abord parce qu'il avait validé l'opération contre l'Irak en 2003, et par ailleurs il reçoit des fonds effectivement de certains pays, donc on va dire une neutralité qui est sujette à caution pour certains. Or ce serait lui qui serait en charge effectivement de cette fameuse JITA, enfin une autorité internationale de transition qui serait créée par une résolution du Conseil de sécurité, avec un conseil d'une dizaine de membres et une représentation palestinienne dans un premier temps très restreinte, avec à terme l'idée d'une transmission au bout de quelques années à une autorité palestinienne renouvelée. Et ça, c'est envisagé dans le point 19 du plan, puisqu'on parle de réforme de l'autorité palestinienne, avec un horizon très incertain d'une autodétermination et la création potentiel d'un État palestinien qui serait la reconnaissance d'une aspiration du peuple palestinien aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui posait problème d'ailleurs au Premier ministre israélien, mais on va dire l'horizon très lointain a fait que le plan, le point a été intégré tout de même.
David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, joint par François-Xavier de Calonne. Direction à présent le Maroc. Des protestations et un drame. Deux personnes ont été abattues hier soir par des gendarmes. Elles tentaient, selon les autorités locales, de prendre d'assaut une brigade au deuxième jour de violence en marge d'un mouvement pacifique pour de meilleurs systèmes éducatifs et de santé. C'est arrivé au deuxième jour de violence en marge donc de ce mouvement, François-Xavier de Calonne.
Oui, pourtant, les protestations impulsées samedi dernier par le collectif de jeunes baptisé Gen Z 212 se veulent pacifiques. Les manifestants avaient d'ailleurs été autorisés ce mercredi soir. Les manifestations avaient été autorisées. Elles ont rassemblé des centaines de manifestants à Casablanca, Tanger ou encore Tétouan. Parmi les slogans « Liberté, dignité, justice sociale », les manifestants rejettent toute instrumentalisation politique de ce mouvement. Or, même les personnalités politiques très à gauche ne sont pas les bienvenues quand elles tentent d'afficher leur soutien devant ces jeunes. On a pu voir, par exemple, la députée PSU Nabila Moudib au milieu d'une foule de jeunes gens. Un jeune homme l'interpelle. Il lui dit qu'il ne veut pas voir de doctorant en sciences politiques surfer sur cette vague. La députée de gauche a dû faire marche arrière.
Et pour la deuxième soirée consécutive, des violences ont frappé le pays.
Oui, et cela s'est traduit par un drame. La mort de deux personnes tuées par des gendarmes alors qu'elles tentaient, selon les autorités locales, de prendre d'assaut une brigade. C'est arrivé près d'Agadir. Plusieurs actes de vandalisme ont aussi été commis à travers le pays. Il est important de souligner que ce mouvement se décrit comme un espace de discussion sur des questions qui concernent tous les citoyens, comme la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption. Il affirme rejeter la violence et agir par amour de la patrie. Alors, question, les initiateurs de ce mouvement, qui ne donnent pas leur identité, perdent-ils une forme de contrôle face à l'ampleur des mobilisations, avec des individus qui se grefferaient à ces manifestations, mais sans emporter les revendications? Exemple à Salé, cette ville très proche de Rabat, où des personnes cagoulées ont incendié deux voitures de police et une agence bancaire, sans scander aucun slogan. Nadia.
Merci François-Xavier de Calonne. C'est la fin de ce rendez-vous d'information mis en onde par Mohamed Bezeri. Prochain rendez-vous avec l'actualité en langue arabe à 12h30. Vous retrouverez Balkis Annahas. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.